écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis très heureux de commencer avec vous la saison 2016-2017. C'est la sixième année, déjà. Pour vous, pour nous, j'ai préparé une saison, selon moi, très belle et que vous ne pouvez trouver que sur Agora Côte d'Azur. Ensuite, chaque émission est mise sur un site, deux jours après chaque émission, soit pour cette émission dimanche soir, avec une note de synthèse. Je vous rappelle ce site, www. En petit caractère et relié, art au pluriel, culture au pluriel, éducation au singulier, .com/. Il y a 50 000 passages par an, ce qui n'est pas négligeable. Il y a quatre autres séries et diverses rubriques. Cette année, nous naviguerons entre le Pays de Grasse historique, trop oublié, c'est-à-dire Grasse et 42 villages autour, la région PACA, la France et le monde. Je vous dévoile quelques émissions de cette saison 2016-2017. Commençons par Le Monde. Une émission se fera sur des auteurs italiens et elle se fera en Italie. Une autre se fera au Mexique, sur le Mexique et sur les auteurs actuels. Une troisième se fera sur l'Afrique, mais cette fois en France. Au moment où je vous parle, une vingtaine d'intellectuels, d'auteurs, d'artistes sont réunis pour la première fois à Dakar sur le thème suivant « L'avenir du monde se joue en Afrique », ce que je crois personnellement. C'est à l'initiative de Felouine Sarr et de Achille Mbem que cette organisation a lieu, cette première rencontre, et j'espère au moins avoir l'un d'entre eux pour faire cette émission sur l'Afrique « L'avenir du monde se joue en Afrique » avec au moins l'un d'entre eux. Poursuivons par la France, nous aurons une émission avec Edgar Morin, à nouveau, sur les nouvelles humanités. C'est un projet qui lui est très cher et je pense qu'il est majeur pour notre devenir. Il y aura une émission sur Henri Laborie, une autre sur Gaston Bachelard, des auteurs du XXe siècle qui nous ont quittés, mais qui continuent de nous guider par leur ouvrage pour le XXIe siècle et nous entendrons leur voix. Il y aura en plus une émission très originale. Une émission unique que vous n'entendrez aucune part ailleurs, avec Jean d'Ormesson dialoguant avec deux adolescentes. L'une de 10 ans qui a fui le Tibet et qui vit désormais en France, l'autre de 18 ans qui vient d'Amérique latine. Le thème de cette émission, ça sera « Notre siècle, le 21e siècle, Jean, dites-nous votre vision ». Il y aura une émission sur la Corse, ses éditeurs et ses écrivains qui se déroulera en Corse. Et puis, bien entendu, il y aura la région PACA, et là je ne vous dévoile qu'une émission qui est prévue, qui est programmée, c'est avec Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, sur le thème « Le théâtre comme révélateur de notre vie », et ça se déroulera au Palais des Papes, à Avignon, vous penserez à nous, au moment où ça se déroulera. Au passage, je veux vous donner deux informations. Lundi 31 octobre s'ouvre à la Cour d'appel d'Aix, en Provence, le procès de l'électricien de Picasso. Son avocat sera Dupont-Moretti, très connu en France et à l'étranger. Dans la salle, il y aura à ce moment-là Daniel Baudot-Laxine, qui a publié récemment « Ma danse avec Picasso », un très beau livre qui par ailleurs démontre, selon elle, l'innocence de cet électricien. Notre émission a été la première, le 29 avril 2016, à parler de ce livre qui, je vous l'indique, circule beaucoup, y compris dans les milieux juridiques du procès. D'autre part, à l'initiative de Parole d'écriture, le 15 mai 2017, au château de Corinthe, qui est un village bio, une rencontre Renaissance et Partage, de 9h30 à 17h, avec le concours de l'Agence régionale du livre et d'Agora Côte d'Azur. Pour qui ? Eh bien pour des auteurs, des éditeurs, des libraires, des instances centrées sur l'écriture et le livre, qui ont envie de se retrouver pour parler des difficultés, mais aussi des réalisations concrètes qu'ils font. Et ça sera une mise en commun tout à fait extraordinaire. Et si vous allez sur le site, après cette émission, pour retrouver la note, eh bien vous verrez les références de Géraldine Calabru qui prépare cette émission, parce qu'il y aura en même temps une émission et cette journée de travail. Je serai moi-même présent comme l'un des initiateurs de cette rencontre, comme animateur de cette émission et comme auteur. Mon neuvième livre est publié pour Noël. Ce soir, nous restons dans le Pays de Grasse historique, encore une fois, Grasse et 42 villages historiques. Avec Christian Artaud, le thème « Art et écrit, mon regard sur le présent ». Christian réside à Gourdon, dans le Pays de Grasse, donc historique, comme je viens de l'indiquer. Il travaille dans le domaine de l'art. Il est en plus commissaire d'exposition et organisateur de rencontres littéraires. Il est lui-même écrivain. Il a publié à ce jour 8 ouvrages, dont le livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas, La Côte d'Azur des écrivains, Christian Artaud et Éric Paul. Il a publié par ailleurs de nombreux textes dans diverses revues, par exemple Faire part, qui est une remarquable revue. Je vous indiquerai dans la note de synthèse toutes les références. L'entretien que j'ai eu avec lui il y a quelques jours dure plus d'une heure. Elle paraîtra entièrement dans Chemascopie sur le site. Pour ce soir, j'ai choisi deux extraits de 15 minutes pour respecter le temps de cette émission. J'ajoute que Christian traduit des textes chinois. Il est plein de projets, attend la retraite pour les mettre en œuvre. Mais si vous voulez, à court terme, écoutez-le sur le thème « Art et écrit, mon regard sur le présent ». Christian réside dans le Pays de Grâce historique. La première rencontre que j'ai eue avec lui est son livre « La Côte d'Azur et les écrivains » publié en 1999. Ce livre m'a passionné et m'a permis de connaître un auteur de la Côte d'Azur trop peu connu et d'une rare richesse. Critique, animateur de rencontres littéraires, spécialiste dans le domaine de l'art, poète, traducteur, y compris en chinois, nous y reviendrons, auteur de nombreux textes, il est quelqu'un qu'une pluralité de mots ne suffit pas à situer. Christian est pour moi un homme complexe, rare, qui en simplicité travaille à son et à l'humanité. Il est à la fois dans le XXe et le XXIe siècle. Bonjour Christian.
Bonjour Monsieur.
Alors, cette émission avec vous a pour thème « Art et écrit, mon regard sur le présent ». Est-ce qu'avant d'aborder ce thème, je pourrais vous dire, mais quel est un peu votre parcours ?
Ah, mon parcours. Donc, mon parcours, il est, dans le domaine de l'écriture en tout cas, celui de quelqu'un qui a commencé à écrire à l'âge de 11 ans, lorsqu'un professeur de musique en 6e, j'étais au lycée Lecomte de Lille à Saint-Denis de la Réunion, nous disait... pour Noël, offrez-moi, faites-moi un cadeau. Que ce soit une œuvre d'art, musique, chanson, peinture, dessin, gravure, sculpture, poème, roman, nouvelle, peu importe, proposez-moi une œuvre d'art et vous me l'offrez. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme idée. C'est un professeur qui nous plaisait beaucoup, à tous. Et j'ai écrit mon premier poème comme ça, j'avais 11 ans. Et depuis lors, je crois que je n'ai jamais arrêté d'écrire de la poésie. D'abord pour mon plaisir, d'abord pour simplement dire ce qui me semblait important de ma misérable existence, d'adolescent par exemple. Mais ensuite, je me suis tourné vers la réalisation d'ouvrages et de revues, de magazines, à la fois sur le plan des maquettes, matériellement parlant, mais également du contenu. J'étais rédacteur en chef, j'ai dirigé des revues, j'ai organisé des groupes littéraires, j'ai présenté des manifestations, des colloques, des séminaires, des rencontres, des projections de films, voilà, sous toutes les formes diverses et variées, dans différents lieux, en France, un peu partout. Donc cet activisme, disons littéraire, m'a conduit à rencontrer beaucoup d'auteurs. J'ai été aussi secrétaire d'un écrivain. C'était mon premier job vers 22 ans, quelqu'un de très riche et qui avait la particularité d'être un poète traditionnel qui écrivait en alexandrin et qui avait son domaine à Saint-Zacharie, au-dessus de Aubagne, et qui avait la particularité d'être quelqu'un qui vivait pour la littérature depuis de nombreuses années, qui avait toute sa vie travaillé comme géomètre, fait fortune, et il avait une imprimerie à lui, donc il éditait ses livres chez lui, par ses imprimeurs. Il avait salarié plusieurs imprimeurs qui réalisaient différents travaux par ailleurs, et donc lorsqu'il m'a embauché comme étant son secrétaire, eh bien voilà, je me suis retrouvé devant la mission de promouvoir ses ouvrages auprès des critiques littéraires. Donc j'étais rencontré Bernard Pivot, Jordan Maison, Robert Sabatier et des centaines d'autres critiques de l'époque, et je promouvais ses ouvrages, notamment le dernier d'entre eux qui s'appelait « Fallait-il bâtir le Mont-Saint-Michel ?» qui était l'histoire de son projet de basilique souterraine à la Sainte-Baume, et un projet qu'il avait conçu avec l'aide du Corbusier. C'était l'époque du renouveau de l'art sacré avec le père Couturier, etc. Donc il avait conçu cela, mais simplement l'évêché à Fréjus avait arrêté son projet dans la mesure où lui, il avait associé cette basilique souterraine à un projet immobilier pour héberger, bien sûr, les pèlerins. Donc l'évêché a senti le vent venir. Bon, il est décédé et ensuite j'ai été l'organisateur de plusieurs rencontres et notamment un congrès sur Raymond Roussel qui est un écrivain qui a bercé mon adolescence, qui est un écrivain un peu singulier, qui avait trouvé une manière d'écrire très particulière qui nous éloignait du lyrisme poétique encore en vogue au début du siècle. Et lui, il a écrit notamment Impression d'Afrique, L'étoile au front, Poussière de soleil, etc. Et j'ai essayé en 83 donc de réactiver le souvenir de cet écrivain qui s'était suicidé en 1933 à Palerme. Et donc ça m'a fait également découvrir combien le monde de la littérature vit et se développe à travers les œuvres d'anciens écrivains, d'autres écrivains antérieurs dont l'œuvre parcourt encore les décennies qui suivent leur mort, quoi. Alors ça, bon, après, j'ai participé également à une revue qui s'appelait Poésie d'ici, à Nice. Le but de Poésie d'ici, c'était de réunir toutes les voix vives de la poésie de la région. Donc, tout simplement, à l'époque, il y avait encore un festival du livre à Nice, digne de ce nom. Et donc, cette revue Poésie d'ici avait la particularité d'accepter les textes de la plupart des auteurs qui faisaient signe et que l'on rencontrait. Ça a été une activité assez intense et assez militante. On diffusait des poèmes dans la rue, on scotchait sur les gouttières dans les rues ou sur les trottoirs des poèmes. On avait créé aussi avec Cathy Rémy des sacs en papier craft sur lesquels il y avait des textes poétiques et qu'on diffusait par milliers d'exemplaires sur le cours Saléa. Et donc on avait demandé aux marchands de fruits et légumes d'utiliser ces sacs pour bien sûr contenir les fruits et légumes, et donc ça nous permettait d'avoir aussi un dialogue avec les gens qui allaient au marché, tout simplement la plupart d'entre eux vidant leurs propres fruits et légumes achetés dans leur panier pour conserver soigneusement le papier craft, etc., pour le conserver, et aujourd'hui encore on le trouve en vente à droite à gauche. Et puis après poser ici, le groupe qui était assez important s'est dissous et a donné lieu à une sorte de répartition, chacun produisant sa propre revue ou sa propre feuille de chou. Donc il y a une activité littéraire à Nice quand même assez intense à ce moment-là. Et puis après quoi, écoutez, moi j'étais disponible pour faire deux trois choses importantes, et notamment le conservateur du musée de Matisse à Nice qui venait d'arriver m'a sollicité pour concevoir une exposition sur les livres illustrés de Matisse, sujet que je ne connaissais pas du tout, et je ne connaissais pas non plus le monde des musées, et j'ai découvert que finalement le travail de conservateur, de régisseur, de commissaire d'exposition me convenait tout à fait, et donc à partir de là, je suis resté dans ce musée pour concevoir d'autres expositions avec l'équipe de la conservation. Donc je me suis intéressé beaucoup à l'œuvre de Matisse, j'ai publié pas mal d'articles, j'ai participé à des conférences, à des colloques sur le sujet, j'ai travaillé aussi sur les expressionnistes allemands, sur l'histoire du livre illustré moderne également, qui a donné lieu à pas mal de publications. Et puis en 91, j'ai organisé une exposition, une des deux expositions inaugurales du MAMAC, qui est le musée d'art contemporain de Nice. Donc Gilbert Perlin avait conçu l'exposition Marc Di Suvero, un sculpteur américain, et moi j'avais conçu l'exposition sur Francis Picabia. Et donc ces deux expositions ont lancé la programmation, l'exposition du MAMAC. Après l'expo Picabia, donc je suis revenu au musée Matisse, j'ai conçu d'autres expositions avec Xavier Girard, et après quoi j'ai quitté le musée parce que j'ai l'administration niçoise, je n'y avais pas vraiment trouvé ma place. Et des amis me proposent de créer une librairie. Ses amis s'appellent Jean-Paul Oudol et Marie Cardona, qui étaient deux vendeurs à la librairie La Sorbonne, et ils voulaient créer leur propre librairie. Ils avaient trouvé un investisseur que j'ai rencontré après et qui leur a permis de créer une librairie qui est devenue la librairie Masséna, rue Chauffredo à Nice. Donc je participe au choix du mobilier pour la librairie. comme vous voyez, je suis à la fois quelqu'un qui écrit, mais quelqu'un qui aime bien aussi mettre un peu les mains dans la chose concrète et dans la matière. Donc j'aime bien concevoir les choses, les réaliser, me coltiner avec la réalité concrète, pour prendre une expression un peu de Rimbaud. Donc cette librairie, on a conçu à la fois le fond, le mobilier, l'éclairage, la signalétique, mais très vite, quelqu'un m'a appelé pour me proposer un autre travail, donc qui me séparait un petit peu du monde du livre. Hélas, c'était la direction d'une agence régionale du plus grand transporteur d'œuvres d'art en France et dans le monde d'ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas, après tout, voilà, je quittais les musées à peine, je me suis dit pourquoi pas, ce serait intéressant, et puis ça me permettrait d'avoir une direction d'une entreprise, ça m'ouvrait d'autres perspectives. Je pensais avoir un peu de temps pour moi pour écrire, ce qui évidemment s'est avéré complètement faux, puisqu'il faut, quand dans une entreprise privée comme ça, évidemment la question c'est toujours la rentabilité, c'est la gestion du personnel, c'est les relations avec la clientèle, etc. Ce sont des données qui, quand on est fonctionnaire, nous sont totalement étrangères. Donc voilà. Donc, et depuis lors, je suis toujours chez le directeur de cette agence à Nice. Et maintenant, j'ai un petit peu levé le pied par rapport à l'activité de cette entreprise. Et levant le pied, ça me permet un peu de restaurer mon travail d'écrivain. Je n'ai jamais cessé d'écrire, mais simplement le problème c'est que je pense que mon travail d'écrivain est assez ambitieux pour m'interdire, je dirais, d'avancer sur un gros projet si je n'ai pas mon temps absolument disponible. Donc je me contente simplement de notations, de sommaires, de projets, d'idées comme ça. Et puis bon, avec les années qui viennent, là, je pense maintenant que j'ai la soixantaine, j'ai conçu plusieurs projets d'exposition. Vous savez, en France et partout dans le monde, de plus en plus, souvent, les conservateurs, les équipes des musées n'ont pas forcément le temps de concevoir des expositions sur le plan scientifique pour rechercher les œuvres, pour concevoir un projet d'exposition avec son cheminement, son argumentaire, son intérêt par rapport à ce qui a déjà été fait auparavant en termes d'exposition temporaire. Voilà, il y a beaucoup de trous dans l'histoire de l'art, il manque, et de choses plus ou moins excitantes à expérimenter. Et souvent, les conservateurs sont absorbés par des questions administratives, ou politiques ou administratives. Et donc, un commissaire d'exposition indépendant peut arriver comme ça, avec un projet tout fait, clé en main. Et souvent, ça fait le bonheur du conservateur. Donc, je travaille actuellement sur 2-3 projets d'exposition qui ont un caractère directement international, quoi. Ce ne sera pas forcément en France qu'ont lieu ces expositions. Mais c'est des projets qui me tiennent à cœur. Et par exemple, un de ces projets, consiste à montrer ce qu'est devenue la sculpture après le passage du cubisme, par exemple. Le cubisme, qui est une théorie purement picturale, a beaucoup intéressé, intrigué et modifié le vocabulaire de la sculpture. Et j'aimerais bien savoir en quoi exactement, par quels artistes, comment elle a évolué et ce qu'elle est devenue de nos jours. Donc voilà, ce sont des projets qui ont bien sûr à chaque fois un caractère à la fois artistique et puis l'intérêt de faire une exposition, c'est aussi de rencontrer des collectionneurs, de rencontrer des historiens de l'art, de discuter d'un sujet aussi précis, quoi, disons, et de voir un peu ce que ça donne et partir à l'aventure, quoi.
Christian, si j'ai bien entendu tout ce que vous venez de nous dire, j'ai envie de le résumer en 7 points. Le premier, c'est que vous avez rencontré des passeurs exceptionnels dans votre vie, puisque vous avez eu la chance, par rapport à cet écrivain, de rencontrer, pour vendre ses livres, pour faire connaître ses livres, des gens quand même qui sont reconnus et connus. Donc vous avez toujours été en situation d'avoir des passeurs exceptionnels. On venait même vous chercher, pour passer, si je peux dire. La deuxième idée que j'ai entendue, c'est que vous avez à la fois fait vos études supérieures et vous avez eu un chemin faisant très riche, mais finalement, le chemin faisant l'a emporté, vous disant au fond de vous-même, si j'ai bien compris, vous ne l'avez pas dit, je reconnais que les études supérieures, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. La troisième dimension qui me semble avoir entendu, c'est que finalement, votre chemin faisant, il est constamment vers, par et avec l'inconnu. Vous ne cessez de vouloir explorer l'inconnu, que ce soit la sculpture par rapport au cubisme, etc. C'est assez impressionnant. Et puis, vous avez quatre dimensions qui me semblent caractériser votre parcours. L'art, qui reste toujours présent, l'écrit, qui n'a jamais été absent, la poésie, dans laquelle vous continuez de penser. Et vous avez l'agir, parce que vous mettez les mains dans le cambouis, comme vous le dites, et vous avez ces quatre dimensions qui, à mon avis, vous caractérisent assez bien quand même. Non ? C'est ces quatre dimensions réunies. Et puis, bien entendu, la sixième dimension, c'est le temps. Vous en parlez en permanence. On a l'impression que vous avez envie d'un temps serein pour enfin aller à l'essentiel, c'est-à-dire pour vous, écrire, approfondir, être artisan-chercheur, ce que vous êtes déjà, mais lui donner sa plénitude. Et puis, il y a, j'allais dire, une sixième dimension qui est votre rapport au présent. Parce que à la fin d'un texte qui date déjà depuis quelque temps de la poésie, mais qui me semble toujours présent, vous le finissez comme ça, vous insistez sur l'intuition, cette étincelle qui jaillit et qu'on ne saurait traduire autrement qu'en jouissant de sa courte présence. Donc il y a chez vous à la fois le temps nécessaire pour écrire, pour produire, et le temps immédiat ou présent pour jouir pleinement, présentement, du présent au présent. Et puis, il y a une dernière dimension, c'est que, finalement, vous êtes à la veille d'entrer en renaissance, puisque vous arrivez vous-même, vous le dites, à 60 ans, et qu'enfin arrive l'âge de votre vie où vous allez enfin pouvoir, au-delà de toutes les contraintes économiques, faire ce que vous avez envie de faire. Nous allons terminer cette première partie par l'écoute d'une chanson que Christian a choisie. C'est une chanson de Like Lee, La jeunesse ne connaît pas la douleur.
Together and join the parade and get back what got lost in the trade. With our crowns and our shimmering beads, with the wind in my hair, we are free. Come on, get down, come get down, make amends, make a vow. Come on, get down, come get down.
Le deuxième séquence, la deuxième séquence de l'entretien avec Christian Artaud. La totalité de cette émission, la totalité de l'entretien, la note de synthèse se retrouvera sur le site www.artculture-education, artculture au pluriel éducation singulier.com. L'émission se terminera par une musique de Joseph Haydn que Christian a choisi. La symphonie 45, les adieux. Je vous donne moi-même rendez-vous au vendredi 25 novembre à 18h sur Agora Côte d'Azur.
Continuons, Christian, par rapport à l'écrit. Alors, moi, je vous ai connu avec le livre La Côte d'Azur et ses écrivains, que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire et qui, pour moi, est de loin le meilleur livre qui existe sur la Côte d'Azur et les écrivains. Vous écrivez par ailleurs, vous nous avez parlé à l'instant de chinois, vous connaissiez le chinois à un moment donné, vous avez traduit des textes de Tao et de d'autres. Parlez-nous un petit peu de l'écrit dans votre vie.
Alors l'écrit, l'écrit a commencé très tôt. Enfin l'écrit, l'invention littéraire. Parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire à 11 ans des poèmes comme je vous disais, pour un professeur, mais également, à 11 ans, j'écris mes mémoires. Extraordinaire, non? Donc, j'écris l'histoire, en tout cas, de ma famille. Mais comme je racontais des choses qui n'étaient pas forcément des choses très, très favorables à certaines personnes de ma famille, ma mère m'a dit « Non, Christian, là, je ne te laisserai pas publier ça, c'est pas possible. » Donc voilà, le manuscrit a disparu. Mais j'ai commencé à écrire très tôt, dès 11 ans, et à la fois des nouvelles, des récits, des poèmes, et un journal, etc. Des notations, voilà, des aphorismes, bon, etc. J'étais très tôt un lecteur de Suran, par exemple, donc voilà, j'ai été vraiment à cette école. Et puis de rencontre en rencontre, voilà, j'ai publié dans des revues, beaucoup dans des revues, surtout dans les années 70. Et puis j'ai participé donc à ces revues dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis voilà, l'écrit fait partie de ma vie dans la mesure où je suis un bibliophage depuis l'âge de 11 ans.
Votre bibliothèque personnelle, c'est quoi environ comme volume, Christian?
Ben, j'ai pas compté, mais de 20 000 ou 30 000 livres à peu près.
C'est impressionnant quand même.
Et voilà, et chaque semaine, je peux pas faire autrement que d'acheter des livres. Je fréquente beaucoup les bouquinistes, hein, voilà. Quand j'avais 20 ans et que je n'avais pas un rond, je disais à tous mes amis, mais tu sais, vous savez, quand on aime la poésie, c'est simple, on va chez le bouquiniste et pour un franc, on a les plus beaux textes de la Terre. Donc là, j'ai fait école, beaucoup de mes amis sont devenus des habitués des bouquinistes. Et c'est vrai que en s'intéressant à la littérature de recherche inventive, la poésie, la critique littéraire, certains textes philosophiques, bon, voilà, on s'intéresse en fait à ce qui n'intéresse pas 99% du lectorat. Donc forcément, sur le plan purement économique, il y a un effet qui fait, bon, ben voilà, on peut les trouver chez les bouquinistes pour pas très cher. Et donc, voilà. Et donc, j'ai fréquenté les libraires très très vite. Et puis, j'ai écrit aussi des textes sur l'histoire du livre, hein, sur l'illustration du livre, voilà. Une critique avait fait un article sur moi dans Arts et Métiers du Livre pour dire combien mon parcours était traversé par la question du livre. Et donc la maquette, la mise en page, la qualité du papier, l'organisation d'un texte centré, pas centré, les notations,
l'esthétique
du texte, la glose aussi, le caractère savant ou pas, enfin, etc. Donc voilà, donc le texte fait partie intégrante de mon existence. Quand je travaillais dans les musées, je prenais un soin particulier à l'organisation des cartels, des commentaires, des textes de présentation, des dossiers de presse pour les journalistes aussi, ce qui fait que je retrouvais mes propres textes dans tous les journaux de la Terre. Et donc voilà, alors c'est voilà, je vis au milieu des livres, parmi les livres, et c'est quand même une fréquentation qui me convient assez, dans la mesure, bon, là, je ne suis pas seul non plus, hein, j'ai une vie de famille, etc., mais c'est clair que la confrontation au livre est une chose qui fait partie de ma personnalité, quoi, disons, voilà.
C'est essentiel, en l'occurrence. À titre confidentiel, combien vous avez de livres en réserve après vos 60 ans à publier? 3, 4, 5, 10?
Ah, c'est une question intéressante, effectivement, puisque je pense que j'ai une bonne dizaine d'ouvrages comme ça qui sont
en attente.
D'une part, bah écoutez, voilà, sur la position classique et sur le taoïsme, il y a deux ou trois choses que j'aimerais publier et faire connaître. Mes textes poétiques également. Et puis un texte aussi sur la question de la poésie aujourd'hui, ça me taraude beaucoup. Il y a un centre de poésie à Marseille qui fonctionne très bien, qui a une magnifique bibliothèque et qui organise des lectures, des rencontres. J'y suis allé très souvent. On sent bien que la question de la poésie est au cœur d'une bonne, je dirais, il y a 2000 personnes en France qui sont taraudées par cette question-là. Et ça fait comme un effet de solidarité. Quand on se croise, on se reconnaît. Et voilà. Donc la poésie, voilà, et puis sur l'histoire de l'art, j'ai quelques projets sur certains mouvements artistiques, sur des périodes de l'art qui me tiennent à cœur. Et puis j'aimerais aussi faire un ouvrage sur ce qu'est une image. Parce que je me rends compte finalement que peu de gens savent lire une image, en fait. Donc
ça, je crois que c'était un problème majeur.
Voilà. Ouais. Donc les publicistes savent manipuler les gens sur ces questions-là, mais monsieur ou madame tout le monde ne s'est jamais posé la question. Comment c'était organisé une image, d'où ça vient, pourquoi ça, pourquoi telle lumière, pourquoi telle précision ou imprécision du détail, pourquoi tel premier plan, arrière-plan, pourquoi, etc. Donc l'organisation d'une image, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, des choses que, bon, en histoire de l'art, on apprend, mais on ne l'exerce pas forcément tous les jours. Moi, je ne peux pas me faire abstraction de ça. Quand je vois quand je lis un magazine, une revue, je décrypte l'image, quoi. C'est plus fort que moi. C'est comme une surlecture, quoi, si vous voulez.
Alors, en dehors de tout ce que vous avez indiqué, il y a aussi les livres en chinois, des traductions en chinois, sur Tao, etc. Parlez-nous quand même de ce monde encore secret chez vous, mais qui est fabuleux, d'après ce qu'on a dit avant l'émission.
Alors, ce qui m'intéressait dans la poésie chinoise classique, c'est l'organisation du poème en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, et la langue chinoise a la particularité d'être, comme vous savez, un caractère, c'est une idée, un son, et donc une image mentale également. Et donc c'est l'organisation de ces caractères qui génère une poésie à la fois extrêmement subtile, quand l'auteur l'est, subtil, mais également, il peut être assez violent et assez catégorique et assez cassant, parce que les caractères se lisent d'une manière, comment dire, abrupte, comme ça. Et donc, et c'est une langue où il n'y a pas de caractère pour lier les mots les uns aux autres. Nous, dans notre langue française, on a des articles, on a des prépositions, on a tout un système syntaxique qui fait que la langue se module, s'organise dans le temps, etc. Même dans les poèmes les plus construits, les mieux construits, par exemple chez Mallarmé, qui lui s'est beaucoup intéressé à la langue chinoise, on a quand même, par la langue française, si on veut être compris par ses contemporains, il faut quand même un peu de liant, quoi. La langue chinoise, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé un peu dans la langue chinoise classique, c'est la richesse intrinsèque de chaque caractère et sa profusion polysémique. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec un quatrain de vers constitué de 5 caractères chacun, donc 20 caractères, à une richesse de signification différente extrêmement impressionnante. Jamais une langue occidentale ne pourrait faire la même chose, quoi. Et donc traduire ces textes-là, c'est un enjeu, c'est un challenge invraisemblable, quoi. Et puis bon, j'ai toujours été attiré par la philosophie taoïste, hein, voilà, les questions du vide, la question de la relation dynamique entre le vide et le plein, entre le haut et le bas, etc. Des choses qui traversent aussi l'art contemporain. Que j'ai retrouvé par exemple dans l'œuvre de Matisse, si vous avez visité la chapelle de Vence, quand je discutais avec son assistante de l'époque, Lydia Deastorskaya, elle me racontait que Matisse a eu énormément de difficultés parce que depuis des années il réalisait des gouaches découpées, qui est une grammaire visuelle justement très, très différente, et donc il a eu énormément de difficultés à faire le chemin de croix, parce qu'il fallait qu'il établissent la chronologie de ces 14 stations avec ce système en boustrophédon comme ça, et il se trompait toujours de sens, d'ordre, enfin il n'y arrivait pas. La chronologie lui était devenue impossible parce que, alors déjà, ce n'est pas un peintre spécialement narratif, Matisse, mais encore plus à la fin de sa vie où il ne réalisait que des gouaches découpées, c'est-à-dire des espaces complètement éclatés, sans haut ou bas, sans premier plan, arrière-plan. C'est des gouaches découpées, à plat, posées, et qui inventent une forme de figure très particulière, faite de fleurs, de souvenirs d'Océanie, de personnages féminins, de perruches, de perroquets, etc., etc. Mais en tout cas, en tout état de cause, ce qui faisait le bonheur de Matisse, c'était d'avoir créé cet espace totalement suspendu. Un peu comme si le temps lui-même était suspendu, comme il était vraiment très mal en point physiquement. Je pense qu'il y a trouvé quasiment une extase, une forme d'extase. Et donc, revenant à ce chemin de croix, où il fallait qu'il donne une idée, une indication du temps, et pour lui, c'était quasiment impossible. Il a eu beaucoup de difficultés, et finalement, il a réussi à le faire en multipliant les esquisses, en se trompant mille fois. Mais bon, il y est arrivé, et au final, il a fait ce chemin de croix. Juste en chaque station est synthétisé en un ou deux traits de pinceau, voilà, sur la céramique. Ces questions du temps, c'est vraiment, c'est quelque chose qui parcourt toute la poésie chinoise classique. Et bon, la poésie de Li Bai, de Tufu, de Li He, alors là, il y a aussi une chose qui est intéressante quand on s'intéresse à la poésie chinoise classique, surtout, c'est que les sinologues européens, qui ne sont pas forcément des poètes, ont traduit ces poètes classiques. Mais la plupart du temps, ils les traduisent très mal, c'est-à-dire qu'ils les traduisent avec leur idée de la poésie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une anthologie qui est très célèbre de Paul Domierville, qui est paru chez Gallimard, qui est... Tout est là, on peut dire que c'est les plus grands spécialistes qui ont écrit. Bon, la préface est très très intéressante. Les traductions, on ne peut pas dire qu'elles soient fausses. Néanmoins, il manque l'essentiel, parce que ces sinologues étaient des gens pour qui la poésie, c'était Heredia, c'était Albert Samin, c'était ces gens-là, vous voyez. Donc, bon, voilà, donc on a l'impression que la poésie, parce que l'histoire de la poésie chinoise est comme toutes les poésies, à chaque génération, l'esthétique évolue très rapidement. Or, en lisant les traductions de poésie chinoise, on a l'impression que c'est la même poésie sur 2000 ans, avec les mêmes métaphores. C'est toujours le coursier pour le cheval. C'est toujours, vous voyez, c'est... Et ça, maintenant, il y a des sinologues actuels qui ont bien compris que la question de la poésie était peut-être ailleurs, et que donc, forcément, il fallait travailler d'abord sur la sémantique, sur comment un mot a du succès, pourquoi il est dit à ce moment-là, pourquoi il change de signification un siècle après, etc. Les allusions, etc. Donc, c'est cette profusion de sens qui, moi, qui m'intéresse beaucoup dans la poésie chinoise classique, et puis l'espace qu'elle crée autour d'elle. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte chinois de Li Bai, par exemple, vous levez les yeux et le poème continue à vous traverser pendant 10 minutes, un quart d'heure. Quoi. C'est, voilà, il est arrivé, lui notamment, à dire des choses extrêmement noueuses, paradoxales, avec une beauté invraisemblable. Quoi. Et ça, c'est rare ici, mais c'est ce qui fait que, pour moi, ça me donne envie de lire et d'écrire.
Sur Tao, vous avez un certain nombre de textes. Combien vous avez de textes que vous avez travaillés, traduits, etc. 10, 15, 20
hein? Alors, j'ai traduit une cinquantaine de poèmes.
Cinquantaine.
Voilà, de Ruanji, autant de Li Xing Chao, une poétesse du XIe siècle, sur qui tient, voilà, j'ai un projet aussi de film, sur cette, pour raconter l'histoire de cette poétesse, qui est une femme donc de l'aristocratie. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais elle a fui donc les invasions au XIe siècle avec ses carrioles. Elle était avec son mari collectionneuse d'œuvres d'art et de livres, justement. Et donc, elle a commencé son voyage pour fuir les barbares avec 10 carrioles d'objets d'art. Et elle est arrivée au sud de la Chine, qui était à l'abri de ces 10 barbares, sans plus aucun bien, quoi, bien sûr. Tout avait été pillé, dilapidé, vendu, etc. Donc, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à écrire de la poésie. Et c'est une poésie qui est très célèbre en Chine, parce qu'elle a inventé une forme de chanson lyrique, mais très fine, très subtile, qui lui est propre. Elle a créé un genre littéraire, si vous voulez. Et sa vie est extraordinaire, parce que c'est un jeu à la fois sur la mémoire d'un temps révolu, sur qu'est-ce que c'est qu'une communauté, dans quel peuple je vis, pourquoi, comment, avec qui, les barbares, finalement, qui sait, ben, finalement, ils vont devenir plus chinois que les Han, que les Chinois eux-mêmes. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette période en Chine, et sur les réformes politiques aussi qui étaient en jeu. Elle était plus proche de son beau-père, et son mari était plus proche de sa famille à elle, pour des questions purement d'idéologie politique, parce que l'un voulait... Une famille voulait réformer complètement la Chine impériale, et l'autre voulait au contraire maintenir les traditions confucéennes, etc.
Voilà, l'émission se termine. Christian, un grand merci de cette heure passée ensemble. Nous avons passé une heure ensemble. Et dans tout ce que nous avons dit, je retiendrai deux idées, entre autres, parmi d'autres, avant de vous retrouver, puisque bientôt arrive votre retraite, l'occasion de produire un film, les livres dont vous nous avez parlé, et d'avoir le temps de revenir à l'antenne avec nous. Ces deux idées, c'est la suivante, c'est que L'art, qui veut dire littéralement façon d'exister, est essentiel à son existence. Sans art, pas d'existence, pratiquement.
Oui.
Puis la deuxième idée, qui est amusante, mais qui serait à pleurer et à chercher, à explorer, ça serait « le futur est aussi notre passé ». Parce que vous nous montrez que souvent, ce qui s'en vient, ce qui est présentement, est déjà présent sous une autre forme, mais dans l'essence, dans le passé.
Très juste, très juste. Oui, c'est vrai.
Alors, merci Christian. Artiste, artisan, chercheur, vous n'avez pas fini de découvrir. Voyez, en une heure, ce n'est à peine qu'une probiotique de cette personne. Merci beaucoup, Christian.
Merci.
Voilà, se termine cette émission avec Christian Artaud. Si vous souhaitez entendre la totalité de l'entretien, allez voir Chemascopie sur ce site que je vous ai déjà indiqué, que je vous réindique à nouveau, www., art au pluriel, culture au pluriel, éducation singulier, relié.com/. Vous trouverez sur ce site, encore une fois, outre les émissions Paroles d'écriture, d'autres séries d'émissions et puis des rubriques qui vous passionneront. Cela dit, je vous souhaite une très belle soirée, de très belles fêtes, car il va y avoir pour beaucoup d'entre nous un pont. Je vous donne rendez-vous à la fin novembre, très exactement, si vous le voulez bien, au vendredi 25 novembre, pour une émission qui ne manquera pas de beaucoup vous intéresser, mais je vous en laisse la surprise. Bonsoir, chers auditeurs. Thank you.